Chapitre 3. Chelsea, fin des années 1980. Je m'appelle Henry, comme mon père. De temps en temps, le fait de porter le même prénom causait des malentendus, mais puisque ma mère appelait mon père chéri, que ma sœur le surnommait papa, et le reste du monde Monsieur Lamb ou Sir, nous nous en sortions. Mon père avait hérité seul de la fortune que mon grand-père avait constituée grâce aux machines à sous. Lui, je ne l'ai jamais connu. Il était déjà très âgé quand mon père est né. Ce que je sais, c'est qu'il venait de Blackpool et qu'il s'appelait Harry. Mon père n'a jamais travaillé de sa vie. Il a simplement attendu que Harry passe l'arme à gauche pour devenir riche à son tour. Le jour où il a touché le pactole, il a acheté la maison de Chainwalk. Tandis que son père agonisait, il s'était mis en quête d'une demeure. Il avait repéré cette propriété depuis quelques semaines déjà, et était terrifié à l'idée que quelqu'un fasse une offre avant qu'il ne mette la main sur son héritage. Quand il en fit l'acquisition, la maison était complètement vide. Il consacra par la suite des années et des milliers de livres à la remplir de ce qu'il nommait des choses, des têtes d'élans surgissant fièrement des lambris, des épées de chasse croisées au-dessus des portes, des trônes en acajou avec dossiers sculptés, une table de banquet d'inspiration médiévale pour 16 convives, pleine d'entailles et littéralement vermoulue, des armoires débordant de pistolets et de fouets, une tapisserie de 6 mètres de long, de sinistres tableaux représentant les ancêtres de gens qu'il ne connaissait pas, des bibliothèques de livres reliés de cuir et d'or que personne n'ouvrirait jamais, et même un authentique canon exposé devant la porte d'entrée. Il n'y avait pas un seul fauteuil confortable. Pas un coin douillet. Tout était fait de bois, de cuir, de métal ou de verre. Tout était dur. Surtout mon père. Il aimait soulever des poids dans notre cave et buvait de la Guinness de son fût personnel dans son bar privé. Il portait des costumes faits sur mesure à Mayfair qui coûtaient 800 livres pièce et avait du mal à contenir ses muscles saillants. Ses cheveux avaient la couleur rouille des vieux centimes. Et ses mains aux jointures rougies, l'apparence de la chair à vif. Il conduisait une Jaguar. Il jouait au golf, bien qu'il déteste ce sport, son corps n'étant en effet pas adapté au swing, trop raide, inflexible. Le week-end, il allait chasser. Il disparaissait le samedi matin, vêtu d'une veste en tweed bien ajustée, emportant avec lui une malle pleine d'armes, et revenait le dimanche soir avec deux ou trois tourterelles des bois dans une glacière. Un jour, quand j'avais environ 5 ans, il est rentré avec un bulldog anglais qu'il avait acheté à un homme dans la rue, dégainant quelques-uns des billets de 50 livres encore craquants qu'il gardait roulés dans sa poche de veste. Apparemment, il trouvait que le chien lui ressemblait, jusqu'à ce que le kleps chie sur un tapis antique et que mon père s'en débarrasse. Ma mère, elle, était une beauté rare. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de mon père. Ta mère est une beauté rare. Elle était à moitié allemande et à moitié turque, Martina. Elle avait 12 ans de moins que lui, et à l'époque, avant que les autres arrivent, c'était une véritable gravure de mode. Quand elle enfilait ses lunettes de soleil, c'était pour aller transformer l'argent de mon père à Sloane Street en carré de soie, rouge à lèvres de luxe et parfum français. Elle s'y faisait parfois photographier une multitude de sacs au poignet et apparaissait dans les magazines de l'élite londonienne. On disait qu'elle était une femme du monde, mais ce n'était pas le cas. Elle était invitée aux soirées les plus courues et portait de beaux vêtements, mais à la maison, c'était simplement notre mère. Pas la meilleure, mais pas la pire non plus. Elle apportait sans aucun doute un peu de douceur dans notre manoir massif, masculin et plein de machettes. Autrefois, elle avait travaillé. Pendant à peu près 1 an, sa vocation avait été de mettre en relation des gens importants du milieu de la mode. Elle avait dans son sac de petites cartes de visite argentées où se dessinaient en rose vif les mots « Martina Lamb et associés ». Elle avait un bureau sur King's Road, une grande pièce lumineuse située au-dessus d'un magasin, avec une table en verre, des chaises en cuir, un telex, des vêtements sous plastique alignés sur des portants, et un vase de lit blanc trônant sur un socle. Pendant les vacances scolaires, elle nous emmenait au bureau, ma sœur et moi, et nous occupait avec des feutres et des feuilles toutes neuves de papier blanc comme neige, fraîchement sorties d'une nouvelle ramette. Le téléphone sonnait de temps en temps, et ma mère répondait « Bienvenue chez Martina Lembe et Associés ». Quand quelqu'un sonnait, ma sœur et moi nous battions pour savoir qui appuierait sur l'interphone. C'étaient toujours des femmes très minces, à la voix au perché, qui venaient discuter des dernières tendances et des célébrités. Il n'y avait pas d'associés, seulement ma mère, et de temps en temps une stagiaire aux grands yeux. Je n'ai jamais su ce qui était arrivé à ce projet, mais un jour, le bureau n'existait plus, les cartes de visite avaient disparu, et ma mère était redevenue femme au foyer. Avec ma sœur, nous étions scolarisés à Knightsbridge, dans ce qui devait être l'école la plus chère de Londres. À cette époque, mon père n'avait pas peur de dépenser son argent. Il adorait cela. Plus il flambait, mieux il se sentait. Notre uniforme était marron merde et jaune bile, avec pour les garçons un pantalon qui ressemblait à une culotte de golf. Heureusement, à l'âge où j'aurais pu me trouver humilié de porter un tel accoutrement, mon père n'avait déjà plus assez d'argent pour payer les frais de scolarité, et encore moins pour des culottes en velours côtelé qu'il fallait se procurer au département des uniformes du grand magasin Harrods. La dissolution de notre famille, de notre maison, de nos vies, s'est déroulée lentement mais sûrement à partir de leur arrivée. Ce soir-là, quand Birdie est apparu sur le pas de notre porte avec deux grandes valises et un chat dans un panier en osier, nous n'aurions jamais pu deviner qu'elle allait exercer une telle emprise sur nous, que d'autres la suivraient et qu'elle allait précipiter notre fin. Nous pensions qu'elle venait juste pour le week-end.